On va continuer. Ce matin, je n'ai pas fait un enseignement particulier. C'est même peut-être un enseignement qui n'est pas très joyeux, mais c'est le prélude à un enseignement très joyeux qui va suivre. On va terminer le chapitre 7 de la lettre de Paul aux Romains, remettre l'étude au Seigneur. Seigneur, nous te remercions de pouvoir nous réunir librement. Et chaque fois que nous le faisons, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à nos frères et sœurs persécutés de par le monde, ceux qui prennent leur vie en main lorsqu'ils essayent de se réunir avec d'autres frères et sœurs en Christ pour te célébrer, pour étudier ta parole, pour prier les uns pour les autres et pour l'Église. Merci de ce que nous n'avons pas ces problèmes pour l'instant. Aide-nous à rester vigilants, Seigneur, et surtout à prendre avantage, à utiliser les opportunités que nous avons maintenant pour parler de toi autour de nous, pour annoncer ta venue, et surtout en cette période de Noël, Seigneur. Nous voulons venir expliquer qui tu es, Seigneur. Tu n'es pas juste une décoration pour que les commerçants puissent vendre des chocolats, des sapins et d'autres histoires, Seigneur, mais c'est une célébration de ce que tu es venu parmi nous. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous, et tu es venu pour rompre la loi du péché, Seigneur, pour briser la loi du péché. C'est ce que nous allons voir ce matin. Merci d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos intelligences à ta parole, Seigneur. Nous prions pour que ton Esprit Saint, qui l'a inspiré à l'apôtre Paul, puisse la restituer dans nos cœurs en vérité et en puissance, Seigneur. Nous te remettons aussi toutes les églises de cette ville qui t'adorent en esprit et en vérité. Que ton nom soit répandu, Seigneur, parmi nos contemporains. Te le demandons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Alors certains m'ont fait des confessions depuis la semaine dernière en me disant que oui, c'est vrai, leur tube de dentifrice s'est écrasé par le milieu. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à écouter le message sur Monsieur Parfait et Monsieur la Loi et Monsieur l'Amour. Nous avons vu qu'en fait, la loi qui désigne dans la première partie de cette lettre de Paul, l'Ancien Testament, notamment avec les 10 commandements et toutes les lois attenantes, la loi, en fait, elle est bonne. Il n'y a rien de mal en elle, au contraire. La Bible annonce beaucoup qu'elle est là pour nous. Elle est parfaite. Et même dans la lettre de Paul, nous savons qu'elle est pas un seul iota, pas un seul trait pas un seul point sur les i, pas une seule barre sur les t ne sera enlevée, ôtée, avant qu'elle ne soit accomplie complètement. Mais on voit aussi que cette loi, et Paul explique de façon très, très imagée avec l'image du mariage, que la loi, elle est parfaite, mais le problème, c'est nous, dans notre vieille nature, nous sommes incapables d'obéir à cette loi. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette explication, mais il y avait cette illustration que j'ai partagée d'un ami pasteur qui disait que nous sommes mariés avec un monsieur parfait qui est la loi. Nous devons le respecter. Et au début, on pense que c'est formidable, mais on s'aperçoit qu'en fait, on ne peut pas satisfaire cet homme parfait, exigeant, qui est la loi. Et qu'en fait, la seule solution, ce n'est pas le divorce, ce n'est pas le meurtre, c'est la mort à nous-mêmes. Pour être capable de nous unir à un nouvel époux qui est le Christ ressuscité. Je vous invite, si le cœur vous en dit, à écouter cette prédication de la semaine dernière et vous me direz si vous écrasez le tube de dentifrice par le milieu ou par le bout, la prochaine fois qu'on se verra. On va lire à partir, on va reprendre, on avait lu mais on n'avait pas vraiment commenté, à partir du verset 7 de Romains 7. Vous avez remarqué que Paul aime bien nous interpeller en disant « Mais qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire quelque chose et c'est pour nous montrer la stupidité d'une position qu'on pourrait évoquer avec lui. » Et là, verset 7, il nous dit « Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. » En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans la loi, le péché est mort. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois, mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie. Et moi, je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, ça fait deux fois qu'il répète cette expression, ce péché m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi ? Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et ainsi par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis marqué par ma nature vendue au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je ne fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Amen. Ces versets par lesquels nous avons terminé, où on voit ce combat entre le bien qu'on veut faire et le mal qu'on ne veut pas faire, et le fait qu'on fasse, on fait l'un sans pouvoir faire l'autre, c'est un exemple de l'honnêteté intellectuelle de la Bible. Encore une fois, je veux attirer votre attention qu'il n'y a pas d'autre livre avec autant de sagesse, autant d'honnêteté. Et j'ai connu beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'en fait, elles étaient restées chrétiennes. Elles s'étaient attachées davantage à Jésus parce que ce combat était décrit avec honnêteté. Et si vous êtes sincère, c'est un combat auquel nous sommes tous confrontés. Et je me souviens de cette jeune femme qui disait « S'il n'y avait pas eu ce passage, j'aurais laissé tomber la foi chrétienne. » Le péché et la loi. On a vu que la loi, c'était cette perfection qui était intenable, qui nous conduisait au désespoir parce qu'on n'arrivait pas à la faire. Et donc, la loi, dans les versets 7 à 13 qu'on avait lus sans les commenter en détail la fois dernière, c'est que la loi, elle ne peut pas nous sauver. Beaucoup de personnes pensent que si on leur pose la question, s'ils sont sauvés, pourquoi ils seraient sauvés, ils vont vous dire « parce que je respecte les 10 commandements ». Alors si on est cruel, et je le serai envers moi-même, on leur demande de réciter ces 10 commandements, et on verra que généralement, on ne tuera pas, on ne volera pas, on respectera le dimanche, le sabbat. Mais bien souvent, ces personnes ne sont pas capables de vous donner les 10 commandements. Pourtant, elles ont le sentiment qu'elles les respectent. Et c'est pour ça que Jésus lui-même a dû dire et corriger les pharisiens, les personnes religieuses de son temps, en leur disant, vous avez entendu dire qu'il faut, il ne faut pas commettre l'adultère, mais moi je vais vous dire que si vous avez simplement regardé une femme avec de la convoitise, c'est comme si vous aviez commis l'adultère. Vous avez entendu dire que tu ne tueras point, mais moi je vous dis que si vous avez insulté, vous avez eu de la colère, de la rage contre quelqu'un, c'est comme si vous aviez tué cette personne. Et en fait, ce que Jésus a fait, c'est qu'il est venu, il a monté la barre qu'il nous fallait sauter. Aujourd'hui, je ne sais plus quel est le record du monde du saut en hauteur, mais on doit être à 2,25 m ou 2,30 m, peut-être plus, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui suit le saut en hauteur ? C'est assez haut. Et pour le commun des mortels, surtout si on n'est pas en forme ou si on n'est plus tout jeune, c'est difficile de passer ces hauteurs au-dessus de 2 mètres. Mais Jésus, il est venu et il a monté la barre au point que maintenant, il faudrait du saut à la perche pour essayer de la passer, cette hauteur. S'il a fait ça, c'est pas pour nous dire vous êtes une bande d'imbéciles, c'est pour nous faire réaliser qu'on peut pas y arriver tout seul. On peut pas satisfaire la loi de Dieu. Et la loi, en fait, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple, psaume 19:8. Plus loin, nous avons lu dans Romains 7:12, la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Il n'y a aucun problème avec la loi, encore une fois. La loi, elle a deux effets. Le premier, verset 7, c'est qu'elle révèle, elle discerne le péché. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire dans la voie de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». C'était un des 10 commandements. Et Paul nous explique, en fait, s'il n'y avait pas eu cette loi lui disant de ne pas convoiter, il n'aurait pas remarqué qu'il avait des désirs illicites dans son cœur. Il ne nous précise pas si c'était des désirs sexuels, si c'était des désirs d'acquérir des biens matériels, d'acquérir de la renommée de quelqu'un d'autre. Mais il a vu dans son cœur qu'il avait un problème lorsqu'on lui a dit « tu ne convoiteras pas ». On a déjà parlé de l'illustration de la limitation de vitesse. Conduire à 100 km à l'heure sur la promenade des Anglais, ce n'est pas un péché en soi. Ce n'est pas quelque chose qui peut être condamné s'il n'y a pas une loi et un panneau de vitesse précisant que la limite de vitesse, elle est maintenant à 30 à l'heure ou je ne sais pas quelle. Je me souviens, lorsque j'étais gosse, longtemps, il n'y avait pas encore les Marina Baie des Anges. Donc on pouvait aller d'Antibes à Nice à 90 km à l'heure tout le long, jusqu'à ce qu'on arrive au port de Nice. Mais il y a eu des accidents, c'était stupide, c'était dangereux, et donc on a dit la limite c'est temps. Et le panneau, maintenant, la loi nous révèle que lorsqu'on allait à cette vitesse, ou qu'on va à cette vitesse, on enfreint la loi, on fait quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui est dangereux. Et on a aussi évoqué l'idée que lorsque vous êtes malade, vous ne vous sentez pas bien, votre médecin vous envoie faire prendre une radio ou un IRM, et puis l'appareil sophistiqué va révéler qu'il y a une fracture dans votre épaule, alors vous n'étiez pas sûr, vous ne pouviez pas la bouger, mais vous espériez qu'il n'y aurait rien. Et puis le rayon X va révéler une condition de maladie. Est-ce que c'est pour autant qu'on va dire que la machine à rayon X ou la machine à IRM est mauvaise ? La machine, elle a fait son travail parfaitement. Elle a simplement révélé quelque chose qui était mauvais. Et de même pour la loi de l'Ancien Testament, toutes les 10 commandements et toutes les prescriptions attenantes sont bons. Et sont bonnes, la loi et les prescriptions, mais elles révèlent le péché. Les 10 commandements ne nous ont jamais été donnés, Paul l'expliquera aussi dans Galates, pour nous permettre d'essayer de les respecter et d'ainsi arriver au sommet d'une relation avec lui où il nous accepterait parce qu'on a monté l'échelle. Non, les 10 commandements nous sont donnés pour nous montrer qu'on a besoin d'aide, que dans notre vieille nature d'homme héritée de nos ancêtres, et de façon ultime héritée de Adam et Ève, nous sommes atteints d'une maladie plus grave que le sida, la maladie du péché. Adam et Ève, il y en a peut-être qui disent, ils croient encore à ces choses-là. Je vous signale que les scientifiques reconnaissent qu'il y a sans doute un couple initial qui a donné la vie à l'être humain et pas seulement. Alors certains vous diront on descend des singes, etc. Mais il y a des scientifiques très sérieux qui pensent que Adam et Ève, c'est pas un mythe, c'est une réalité scientifique. Peu importe. Mais le péché, nous l'avons en nous-mêmes hérité de nos ancêtres. Quelqu'un a dit « La convoitise dont Paul se plaint, c'est la perversion de l'amour qui est l'accomplissement de la loi. Le péché détourne les choses. » Quelqu'un d'autre a dit « Même si la convoitise a pour objet une chose parfaitement légitime, Elle est une idolâtrie car elle donne à la chose convoitée la place qui revient à Dieu seul. C'était un péché intérieur. Donc la loi, pour Paul et pour nous, elle révèle, elle nous montre le péché. Et puis versets 7 et 9, le verset plus loin, il dit que saisissant l'occasion offerte par le commandement, par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans la loi, le péché est mort. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie en moi, je suis mort. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'en fait, la loi, elle incite au péché. La loi, elle incite au péché. Pourquoi ? Parce qu'elle va exciter ma rébellion. Ma vieille nature est caractérisée par cette rébellion à Dieu et à toute autorité. On va fêter l'an prochain les 50 ans de mai 68, où justement le mot d'ordre c'était « ni Dieu ni maître ». Il n'y avait plus d'autorité du professeur, il n'y avait plus d'autorité de l'État, il n'y avait plus d'autorité de la foi, c'était la liberté et elle nous a conduit à la belle société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ce rejet de toute autorité. Ce libre cours donné à notre nature rebelle par essence. J'ai la joie d'avoir deux petits-enfants. Le plus jeune, je ne peux pas encore faire trop d'expérimentation avec lui, mais avec sa sœur, je sais que si je veux lui faire quelque chose, il vaut mieux que je lui dise de ne pas le faire. Parce que sa nature rebelle va vouloir dire non et faire l'opposé de ce qu'on lui demande de faire. Il dit que le commandement profite de l'occasion. Et ça, c'est du vocabulaire militaire. Profiter de l'occasion, c'est prendre un point de départ solide pour une opération militaire, avec l'idée qu'on va déclencher un assaut. Et donc, le péché, avec le commandement, il va attaquer, il va nous donner des désirs illicites, alors que sans la loi, s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de panneau de signalisation, le péché est mort. Ça veut dire que le péché est dormant. Ce qu'on fait quand on fait un excès de vitesse alors qu'il n'y a pas de panneau, c'est dangereux, c'est mauvais. Mais il est dit que le péché a pris vie. C'est-à-dire qu'il a regagné sa force et sa vigueur. Il a repris vie en moi et le résultat, c'est que moi, je suis mort. On parle souvent de psychologie à l'envers, reverse psychology. C'est une réalité qui est utilisé même dans le monde du business. À Seattle, il y a un hôtel qui s'appelle The Edgewater Inn, qui est donc un hôtel qui domine la mer, qui est juste au bord de l'eau. Et ils avaient constaté qu'il y avait des gens qui venaient et qui, de leur chambre, faisaient de la pêche. Puis ils avaient eu quelques accidents où un plomb revenait frapper une vitre et la fêler ou la casser. Donc ils ont mis un signe, interdiction de pêcher depuis votre balcon. Et au lieu de diminuer les vitres cassées, les accidents, ça les a multipliés par 10 ou 20. Parce que dès qu'on disait aux gens de ne pas pécher, ah, j'y avais pas pensé, mais ça doit être bien là. On peut pécher de son lit, pour regarder la télé, prendre son petit déj. Donc la solution, c'était simplement de retirer le signe. Et du jour au lendemain, il y a eu que quelques litres de temps en temps, mais c'était plus. Et ça, c'est cette rébellion, le péché profite de l'occasion. Par le commandement, il nous incite au mal. Et puis, la loi, elle nous tue. Versets 10 et 11, il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire, le commandement ou la loi, qui devait conduire à la vie, m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, il reprend la même expression militaire, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Il est mort, verset 10, il est mort parce que le péché, il n'est pas mort au péché, mais le péché l'a fait mourir. Il est dit qu'il l'a trompé, et le mot est très fort, c'est vraiment, il m'a roulé dans la farine, il m'a complètement trompé. Le péché nous trompe en faisant trois choses essentiellement. La première, c'est qu'il nous promet la satisfaction. S'il n'y avait pas quelque chose de bon, lorsqu'on pêche, on ne serait pas tenté de le faire. On n'aurait pas d'incitation au péché. Mais il y a une chose qui nous attire parce qu'elle nous procure du plaisir, peut-être du plaisir à court terme en général, c'est toujours le cas avec le péché, mais il y a ce plaisir, il y a cette attirance. Et ça, c'est une tromperie. Et puis, le péché nous suggère aussi une excuse adéquate pour notre défense. Je crois que je vous l'ai déjà confessé. S'il n'y a pas de trafic venant de droite ou de gauche et qu'il y a un feu rouge et que je veux traverser le carrefour, bien souvent je vais passer au rouge en vélo. Mais dans ma tête, et je vous garantis que c'est vrai, j'ai déjà l'excuse à présenter aux policiers qui pourraient m'arrêter. Et mon excuse, c'est que je préfère être loin de toutes les voitures qui démarrent en même temps, m'être assuré qu'il n'y avait pas de danger ni à droite ni à gauche, et je vous assure que je réfléchis à ça à chaque fois que je passe un feu rouge de façon illégale, que je brûle un feu rouge en vélo, j'ai ce raisonnement. Une autre astuce, c'est de passer dans le passage pour piétons et de mettre un pied par terre et de glisser. Ah ben j'étais... Mais il nous suggère toujours une explication. Et si on est honnête, on peut dire « Ah oui, j'ai trompé ma femme et... » Elle était insupportable, ou on n'avait plus de relations personnelles. On est là à. Et c'est le péché qui nous trompe comme ça. Puis la troisième façon dont il nous trompe, on pourrait en faire toute une dissertation, c'est qu'il nous fait croire que nous pouvons échapper à la punition. Oh, c'est pas grave, personne ne. Il n'y a pas de signe de caméra, donc normalement, si tu n'as pas vu de policier là, si personne t'a vu maintenant, même si quelqu'un de l'église t'a vu, ça m'est arrivé déjà. Fédosie avait été très choquée de la fois où elle m'avait vu faire ça. Mais on se dit, bon, ben, sans doute, je vais pas me faire prendre cette fois-ci. Et c'est la façon dont le péché nous trompe complètement. La vérité, elle nous libère des mensonges du péché. Jean 8, 32. La vérité, elle nous rend vraiment libres. Et une des stratégies de Satan, c'est de nous faire croire que le péché est en fait quelque chose de bon et qu'un Dieu méchant veut nous en priver. Quand Dieu nous avertit des dangers du péché, c'est pas pour nous empêcher d'avoir une vie heureuse, c'est pour nous avertir de quelque chose qui va nous tuer. Et la loi, elle montre aussi, versets 12 et 13, l'horreur du péché. Il est dit, « Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi ? Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. » Et ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Donc, la loi tue, mais elle nous montre aussi l'horreur extrême du péché. J'aime bien une autre comparaison faite par un commentateur, Warren Wiersbe, qui dit que la loi, au lieu d'être une dynamo qui nous donne la puissance de vaincre, elle est en fait un aimant qui attire toutes sortes de péchés et de corruptions. Si vous avez déjà joué avec une dynamo, la petite mécanisme qui vous permet de transformer l'énergie de votre bicyclette en lumière, vous savez que vous pouvez démonter et qu'il y a un aimant qui est là. Mais dans le cas de la loi, elle n'est pas quelque chose qui nous donne de la puissance, elle est plutôt simplement l'aimant qui attire un tas de mauvaises choses. Et pour nous convaincre de la valeur intrinsèque immense de la loi, qui est parfaite encore une fois, mais pour nous expliquer que la loi, elle ne peut pas nous rendre saints. Vous vous rappelez, on a vu d'abord qu'on était justifié, puis à partir du chapitre 6, on a parlé de la sanctification. La loi, elle ne peut pas nous sanctifier. Et Paul, il partage son terrible combat pour nous montrer son désespoir. Et pour nous amener avec lui, parce que lorsqu'on lit ça, je me rappelle, je disais qu'il y a des personnes qui ont dit « J'ai pensé que la Bible était vraie parce que ce qu'elle décrit là, c'est la réalité de ce que je ressens dans ma vie lorsque je veux faire le bien et que j'y arrive pas. » La loi, elle ne peut pas nous sanctifier. Donc ça, c'est les versets 14 à 25. Et il nous dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature vendue au péché. C'est ma vieille nature de pécheur. Et il y a un conflit. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si vous avez essayé de faire un régime, d'apprendre à jouer de la guitare tout seul, vous connaissez ce combat. Lorsqu'on est laissé à soi-même, j'ai toujours été émerveillé de voir les artistes qui prennent 30 kilos pour un rôle en quelques mois. Dans ce sens-là, c'est pas très impressionnant. On se dit, il suffit de se laisser aller et de prendre des choses bien grasses, bien riches, et de se faire gaver un peu comme une noix pour Noël, pour avoir un foie malade. C'est ça le foie gras. Hein. Désolé. Par contre, les mêmes artistes, les mêmes De Niro vont perdre 30 kilos en quelques semaines, en quelques mois plutôt, et vont être complètement en super forme physique. La chose qu'ils ne vous disent pas lorsque vous voyez les photos dans Paris Match ou dans d'autres magazines, c'est qu'en fait, ils ont un coach. Ils ont quelqu'un qui est avec eux et qui les surveille 24 heures sur 24. Quelqu'un qui fait le combat avec eux. Là, c'est un peu une bande-annonce de ce qui va suivre, mais la loi, elle ne peut pas nous sanctifier. La guerre civile qui prend place dans son cœur, c'est le titre d'un livre de Wayne Taylor, notre pasteur de Seattle, qui décrit justement ce combat qui prend place au cœur de nous. Et les versets, encore une fois, que Paul écrit sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, ça pourrait être mon autobiographie. Et peut-être que si vous êtes honnête, ça pourrait être votre autobiographie aussi. Alors certains disent qu'en fait, ça décrit un combat avant qu'il n'ait été sauvé. Mais il utilise le présent. Et puis, verset 15, il nous dit qu'il déteste le péché. Et le non-croyant ne déteste pas le péché. Le non-croyant, il ne sait même pas ce qu'est le péché. Il nous dit plus loin qu'il prend plaisir à la loi de Dieu, verset 22. Et puis, verset 25, il va nous dire qu'il attend la délivrance du Christ comme une grâce. Ça, c'est pas... Ça montre bien que ce combat qui est décrit, qu'on a lu, c'est un combat d'un chrétien. Ça pose question, comment un chrétien peut-il être à la fois mort au péché et forcé à la défaite ? Différentes façons d'aborder ce problème, mais j'aime bien l'idée de faire la distinction entre la position et l'expérience. Imaginez que la famille princière à Monaco remarque sous le pont de l'autoroute à Vintimille, il y a des migrants qui vivent dans le plus grand dénuement. Je vous invite à parler à Paul, notamment, si on voulait essayer de faire quelque chose, on va essayer d'avoir des actions. Imaginez qu'il soit touché, voilà, un petit enfant qui malade, mal vêtu, et qu'il l'adopte et qu'il le fasse venir habiter au palais, qu'il l'adopte, il devient un petit prince du jour au lendemain. Mais il n'empêche que pendant des semaines, des mois, peut-être des années, ce petit garçon va toujours faire des choix de SDF. Des petits qui a vécu dans le dénuement, dans les bidonvilles, dans les cartons, sous quelques tôles. Et peut-être qu'il va, lorsqu'on lui sert le petit-déj dans des plateaux d'argent, peut-être qu'il va voler des pains au chocolat, ou même peut-être des tasses en argent. Et il aura la position d'héritier, de prince, mais en même temps il aura la pratique du SDF. Paul disait, pour exprimer ce combat, Philippiens 3:12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Cette autobiographie de Paul, encore une fois, c'est qu'il réalise que la loi, elle est spirituelle, elle est très haute. Ses demandes sont de l'ordre du saut à la perche, alors qu'on est capable de faire des petits sauts en hauteur. Même en tant que chrétien, il arrivait à Paul de marcher selon la chair. Quatre questions. Quelle est la cause de ce combat intérieur? Vous avez peut-être entendu parler de trois grandes causes, trois forces qui sont à l'œuvre contre le croyant et qui demandent des stratégies différentes. Rapidement, le monde, le diable et la chair. La chair, c'est la nature humaine non sanctifiée, ce que nous sommes en dehors de l'action divine. C'est notre vieille nature pécheresse. C'est la nature de péché qui habite dans mon corps, non encore glorifiée, et dans la partie de mon intelligence qui n'a pas été encore renouvelée. Le monde, Satan et la chair. Le monde, c'est le système de valeurs des non-croyants. Et c'est, dans notre société, le système de valeurs des gens qui nous entourent pour la plus grande part. Et pourtant, il est dit, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, versets 15 à 17. Plus loin, Jacques dira, « Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Le monde, c'est les valeurs qui sont propagées par notre société, par la culture ambiante, par la publicité, par la sagesse populaire en général. Et puis, le monde, il y a derrière le monde, il y a le diable, ça veut dire le calomniateur, ou l'ennemi, Satan. Satan, c'est l'adversaire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, nous dit Paul dans Éphésiens 6, 10 à 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Encore une fois, on est dans un combat. Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et puis il y a ce verset important, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, là on ne parle pas de Monaco, mais ça veut dire simplement les puissances dans les cieux maléfiques, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il y a une réalité d'un combat spirituel. Et il nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, on dirait aujourd'hui, on pourrait dire aussi la panoplie du combattant, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits, les flèches enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Pierre dira, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermes en la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est important de réaliser qu'on n'est pas les seuls à avoir à mener ce combat. Le monde, Satan, et puis la chair. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, disait Jésus, Jean 6, 63. Le combat intérieur, c'est le résultat de la présence de cette vieille nature qui lutte contre notre esprit renouvelé par l'Esprit Saint. Galates 5, 17, la chair a des désirs contraires à l'esprit. Notre vieille nature a des désirs contraires à l'esprit. L'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Dans Galates 5, 17, c'est là qu'il va faire la différence entre les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Il reprend exactement, il condense, on ne fait pas ce qu'on veut parce qu'il y a ce combat. Si on essaye de porter des fruits pour Dieu par nos propres forces, alors on peut être assuré de l'échec. C'est intéressant que dans le chapitre 7, le pronom « je » ou « moi » ou « moi-même » apparaît 47 fois. Paul essaye de faire tout par lui-même. Au chapitre 8, on verra, et ça va être vraiment la bonne nouvelle, ça va apparaître, le « je » ou « moi-même » n'apparaîtra que deux fois. La victoire, elle n'est pas dans mes bonnes résolutions, mes efforts, mon entraînement, ma discipline personnelle, prendre des douches froides à 5 heures du matin pour pouvoir passer du temps avec Dieu. On sait que rapidement, ça ne marche pas. On s'enrhume. Et on devient crevé. Il dit, je suis à même de vouloir, mais non d'accomplir le bien. Il est intéressant de remarquer qu'il y a une relation entre ces trois ennemis du chrétien, le diable, le monde, le diable et ma chair. Et ça peut se résumer ainsi, c'est que le diable contrôle le monde. Et le monde, lui, il séduit ma chair. Le diable contrôle le monde. Pourtant, Dieu, Jésus a vaincu le diable à la croix. Oui, mais il y a un combat d'arrière-garde. Et même Jésus disait, Jean 12, 31, « Maintenant, c'est le jugement de ce monde. » Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Jean 14, 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Jean 16, 11, « Le prince de ce monde est jugé. » Éphésiens 2, 2, « Vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde. » Selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Satan a été vaincu à la croix, mais il mène un combat d'arrière-garde. Et si nous ne sommes pas au courant de cette réalité, nous lui obéissons alors que nous avons tout pouvoir de refuser. Mais encore une fois, Il y a quelque chose qui rend le combat plus difficile, c'est notre tendance naturelle à ne compter que sur nous-mêmes. On a cette tendance innée. Pierre nous dira, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Si on ne sait pas que nos propres efforts, par nos propres forces, selon notre vieille nature et nos talents naturels, est voué à l'échec, nous sommes dans l'ignorance. Dieu nous enseigne quelque chose au travers de ce combat, et ça, il faut le retenir. Verset 18. Je sais que le bien n'habite pas en moi. Une autre version dit, voilà, ce qui est bon n'habite pas en moi, ou rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Nous devons reconnaître notre totale incapacité, notre impuissance, notre inaptitude, notre incompétence, notre invalidité, notre insuffisance à vivre une vie digne de plaire à Dieu si Dieu ne vit pas en nous. Et le commun des mortels pense que, en étant un bon citoyen, en étant une bonne personne, on sait qu'il n'y a pas de bonne personne. Il n'y a que Dieu qui est bon. Nous devons arriver avec Paul à cette conclusion, malheureux que je suis, malheureux, misérable que je suis. J'aime bien l'expression en anglais, elle est forte, wretched man that I am. Je suis nul par moi-même pour accomplir le bien pourrait plaire à Dieu. Et le mot misérable, le mot malheureux, c'est le mot qui a été utilisé pour désigner quelqu'un qui venait d'être battu dans un combat de lutte et qui était complètement assommé, ravagé, qui avait pris des coups de partout. C'était ça. Et quand on essaye d'être bon par nous-mêmes, de faire des bonnes actions, c'est comme ça qu'on se retrouve. On voit qu'on est frappé de tous les côtés. La réalité de notre vieille nature, de notre péché, nous assomme de tous les côtés. Il crie, qui va me délivrer de ce corps de mort ? Verset 24. Et ça fait référence à une vieille pratique dans la ville d'où Paul était originaire. Plusieurs siècles avant, il y avait la coutume de lorsque quelqu'un était condamné à mort, on ne lui coupait pas la tête, on ne le pendait pas, on ne le mettait pas sur une croix, on lui attachait sur le dos un cadavre, une personne morte. Donc, on s'assurait que c'était lié et la personne était libre d'aller et venir, mais toujours avec ce cadavre attaché. Et non seulement il y avait la putréfaction, l'odeur, il y avait les mouches, mais rapidement, la mort se transmettait aux condamnés à mort. Il attrapait des maladies de peau et rapidement les mouches qui attrapaient l'un passaient sur l'autre. Et qui c'est qui va me délivrer de ce cadavre que je transporte sur mon dos ? Cette vieille nature pourrie, c'est un cri. Quelle est la réponse ? Paul ne dit pas, verset 24, plutôt il ne dit pas quoi, qu'est-ce qui va me délivrer ? Ça, c'est la réaction de l'homme dans sa nature, vieille nature. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ? Je vais prendre des bonnes résolutions, je vais prendre des cours de ceci, je vais prendre des cours de cela, je vais participer à des groupes, Non, je vais. C'est pas l'économie, c'est pas l'éducation, c'est pas la philosophie, c'est pas la psychologie qui vont me guérir et me permettre d'avoir la victoire. Il ne dit pas quoi, mais il dit qui va me délivrer. La première étape vers la victoire, c'est de désespérer de nous-mêmes. Vous ne pourrez pas obéir aux 10 commandements, ni obéir au sermon sur la montagne. Mais Christ vivant en vous, lui va pouvoir le faire. Et ça, c'est le chapitre 8, un des sommets de la Bible. Un auteur a dit, un grand moment dans la vie du chrétien, c'est quand il découvre que la vieille nature ne connaît pas de loi et la nouvelle nature n'a pas besoin de loi. Si Dieu est en vous, si vous êtes animé par l'Esprit Saint, vous n'avez pas besoin de signes extérieurs. Vous allez savoir que conduire à 90 sur la prome, c'est mettre en péril la vie d'autrui. Vous n'aurez pas besoin qu'on vous mette un panneau si vous avez en vous la sagesse de Christ. La loi ne nous délivre pas du péché, mais elle nous mène à celui qui nous délivre du péché. C'est pour cela que la loi est bonne. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cette honnêteté de l'apôtre Paul pour nous expliquer son combat. Et Seigneur, là, il nous montre vraiment notre incapacité à plaire à Dieu sans que Dieu soit celui qui le fasse en nous, Seigneur. Merci que toi, tu es Emmanuel, tu es venu briser la loi du péché. Seigneur, tu es venu nous redonner l'espoir. Merci parce que ce cri de l'apôtre Paul, qui est souvent notre cri, et peut-être le cri de nous en ce moment, Seigneur, tu y réponds en nous disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Seigneur, aide-nous à venir à toi dans nos combats pour nous améliorer, Seigneur. On ne peut pas s'améliorer, Seigneur. Toi, tu tues l'ancien homme et tu le remplaces par une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles en toi, Seigneur. Merci pour ce merveilleux espoir que tu développes dans les versets qui vont suivre, Seigneur. Nous te remettons cette semaine, Seigneur, aide-nous à apprendre à te laisser vivre en nous, Seigneur, à reconnaître notre inaptitude à te plaire par nous-mêmes, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Seigneur, pour Noël, pour cet enfant, petit enfant qui est en fait le Dieu Tout-Puissant venu, ton Fils. Dieu le Fils venu s'humilier à Bethléem et encore plus à Golgotha où il a payé pour nos péchés. Merci pour sa résurrection et Seigneur aide-nous à vivre de plus en plus dans cette nouveauté de vie, de résurrection avec lui, avec ton Esprit Saint Seigneur. Sois glorifié par le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen.